Entre le début de la guerre et la libération des camps, c'est un quart de la population tzigane européenne qui est liquidée par les nazis. Environ 250 000 hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui encore, ce génocide tzigane, ou poraïmos, est assez peu évoqué, et cela s'explique en partie par un manque de reconnaissance au lendemain de la guerre. En effet, si janvier 45 marque la fin des camps, du moins des camps nazis, pour les tziganes, les survivants ne sont pas au bout de leur peine. Pour en parler, j'ai choisi de prendre un cas concret, celui de Bernard Reinhardt. Il n'a rien d'exceptionnel, et c'est justement pour ça que j'ai choisi de raconter son histoire. C'est parce qu'elle est similaire à celle de milliers d'autres tziganes. Lorsque la guerre éclate, il a une vingtaine d'années et est enrôlé comme n'importe quel citoyen allemand. Puis en 1943, il quitte l'armée et est déporté comme tous les autres soldats tziganes. Il passe par plusieurs camps, Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen, puis Ravensbrück. Là, il accepte d'être stérilisé pour survivre, et afin d'échapper au camp, il intègre la brigade SS Tierlewanger, à l'origine pour les prisonniers de droit commun, mais qui finit par accepter aussi les tziganes stérilisés. Après s'être grièvement blessé au pied, il est contraint d'arrêter le service, et c'est peut-être pour cette raison qu'il survit au conflit. En 1949, il commence des procédures administratives pour obtenir une compensation de sa stérilisation et de sa blessure au pied, qui réduisent sa capacité de travail. C'est le début d'un long bourbier administratif qui dure en tout 6 ans. Le service d'aide sociale rechigne à reconnaître les raisons raciales de sa déportation, car après tout, il a été blessé dans une division réservée aux prisonniers de droit commun. Il est également examiné par des médecins anciens nazis qui le déclarent en parfaite santé. Sa demande est finalement déboutée. Il porte alors plainte contre l'administration, et de nouveau, le tribunal refuse de lui donner une compensation sérieuse. Il juge même que les revendications de Reinhardt viennent d'une névrose. Seule une petite compensation, versée en une fois, lui est proposée. L'ancien déporté fait appel, mais c'est à nouveau un échec, et la cour considère que, puisqu'il a 2 enfants, la stérilisation ne constitue pas un préjudice suffisamment important. Il faut attendre 1963 pour que Reinhardt obtienne gain de cause, grâce au réexamen des dossiers tziganes par la justice allemande. La trajectoire que je viens d'exposer en révèle beaucoup sur le traitement des tziganes par la justice allemande. En premier lieu, avant la guerre, elle a été complètement pervertie par le nazisme. Sans même parler des lois racistes promulguées par le régime, le droit commun a été complètement détourné. Alors que les autorités internaient des personnes pour la seule et unique raison qu'elles étaient tziganes, des vols et autres petits délits servaient de prétexte à leur arrestation. Cette mauvaise foi a par la suite empêché de nombreux Roms d'accéder à un dénommagement faute de preuves du caractère raciste de leur persécution. Reinhardt s'est ainsi vu refuser la compensation qu'il demandait pour ses blessures, car il les avait reçues au sein d'une brigade pour prisonniers de droit commun. Même après 45, la dénazification de la justice est bien ardue. Cela tient au fait qu'elle doit s'examiner elle-même, une tâche compliquée qui donne lieu à des aberrations. La République fédérale juge ainsi que les mesures prises avant 1943 à l'égard des tziganes sont officielles et légitimes, alors qu'il s'agit, pour rappel déjà, d'internement et de recensement raciaux. Par ailleurs, le nombre de fonctionnaires impliqués dans le nazisme exclut la possibilité d'un changement total. C'est donc en grande partie le même personnel responsable du génocide qui est en charge de la réparation. Le problème, cependant, ne vient pas uniquement du fonctionnement de la justice. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est l'ensemble de la société qui peine à reconnaître et à réparer le génocide. C'est seulement en 1979 que la RFA reconnaît le caractère raciste des massacres et en 1982 que l'État reconnaît officiellement le génocide. On doit cette lenteur à un antitiganisme ambiant. Les représentations racistes ne disparaissent pas avec le nazisme et après la guerre, on continue à associer nomadisme et criminalité. Les préjugés et discriminations à l'encontre des Roms sont toujours bien présents dans les mentalités. Encore aujourd'hui, il reste un travail de mémoire conséquent à accomplir. Peut-être qu'une étape importante dans ce travail serait de s'interroger sur les termes qu'on utilise pour parler du génocide. On utilise de manière courante, ainsi que dans le milieu scolaire, le nom tzigane. Or, ce n'est pas une appellation neutre. Elle vient du grec « antingani », qui signifie « intouchable ». Ce mot est exogène, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé par les populations concernées, et recoupe différentes formes de nomadisme, parfois très distinctes. En Europe occidentale, il est mal perçu par ce qu'il est censé désigner, qui lui préfère l'expression « Rome ».